Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. À 31 ans, Alia est célibataire et rêve de fonder une famille plus que tout au monde, mais une gynécologue l'informe qu'elle doit se dépêcher de tomber enceinte car il y a de grandes chances qu'elle soit ou qu'elle devienne infertile. Suite à cette annonce inattendue, Alia a très peur de ne pas pouvoir réaliser son rêve jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme de sa vie 2 ans plus tard. Sur la même longueur d'onde tous les deux, ils décident de mettre le premier bébé en route qui se logera en fait très rapidement dans le ventre d'Alia. Elle découvre alors la maternité et se sent un peu larguée dans ce nouveau monde qu'elle ne connaît absolument pas. C'est aussi ce qui va l'amener à l'écriture. Un bébé, 2 bébés, une fausse couche et un 3e enfant plus tard, Alia est une maman comblée et elle est également devenue romancière. Dans cet épisode, Alia nous raconte son coup de foudre avec l'homme qui la fera renaître, elle nous parle de ses différentes grossesses en Belgique où elle vit, de la naissance de ses enfants et de sa carrière d'écrivaine. Une belle histoire contée avec la fraîcheur belge. Bonne écoute. Bonjour Alia.
Hello Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Ça me fait vraiment plaisir d'être là, ouais. Sur ce lit.
Oui, à l'hôtel The Hoxton, c'est ouais. Quand même sympa pour enregistrer. Toi, tu habites en Belgique.
Oui.
Et tu es la maman de 3 enfants.
Ouais.
Quel âge ils ont ?
Ils ont 4, 6, 8.
D'accord. Et alors, le sujet de la maternité est arrivé à quel moment dans ta vie ?
Alors, moi, j'ai toujours voulu avoir une famille, très très jeune. Et en fait, je ne trouvais pas l'homme de mes rêves. Donc, j'ai longtemps eu peur de ne pas avoir la possibilité de fonder cette famille. Et d'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous quand j'avais 31 ans chez une gynécologue qui m'a dit, en fait, il y a des éléments chez vous qui montrent que vous avez de grandes chances de devenir d'être ou de devenir infertile. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est permis cette liberté, parce que ce n'était pas le sujet du rendez-vous. Et vous devez absolument vous dépêcher. Et je dis, en fait, à l'époque, je crois, j'étais célibataire. Je dis, quoi, je vais ce soir dans un bar et hop, on y va. Elle me dit, à la limite, oui. Et je dis, ok. Et donc, à 31 ans, j'avais déjà l'impression que mon temps était compté. Et il m'a fallu encore 2 ans et 4 jours avant de rencontrer l'homme de ma vie. Donc moi, j'ai eu très très peur de jamais avoir d'enfant parce que pour moi, c'était, je crois, la chose la plus importante dans ma vie, quoi. D'avoir cette famille, de construire ce petit groupe. Et donc à 33 ans et 4 jours, j'ai rencontré mon futur mari.
Est-ce que tu avais envisagé de faire un bébé toute seule ?
Je crois que je l'aurais fait. Enfin, je crois que ça aurait été une option. Maintenant, après coup, maintenant étant maman, je crois que ça doit être vraiment très compliqué. Enfin, plus compliqué que ce que je pensais, quoi. Moi, je pensais que les bébés, ça dormait. J'avais plein d'idées. Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. La fameuse phrase. je ne sais pas si j'aurais sauté le pas, mais en tout cas, avoir des enfants était vraiment essentiel pour moi. Mmh. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais... Donc, voilà, je me retrouve à 33 ans et 4 jours pensant déjà que c'était fini pour moi, la maternité, parce qu'on m'avait dit à 31 ans que c'était vraiment assez chaud. Heureusement, j'ai vite su que c'était l'homme de ma vie. Et il m'a demandé en mariage un an après notre rencontre.
Et cette rencontre, tu m'avais raconté d'ailleurs, assez rigolote.
C'était dingue. En fait, une de mes grandes amies d'enfance fait une fête chaque année dans la propriété familiale, d'un beau château. Et c'est chaque fois une fête à thème. Et cette année-là, c'était la fête des cow-boys. Et ils avaient un orchestre. Enfin, ils font vraiment les choses à fond. Ils avaient un orchestre qui mettait une ambiance de fou. Donc, à 20h, il y avait ces longues tables et ces longs bancs. Et tout le monde était déjà sur les bancs, debout à danser. Enfin, c'était une ambiance délirante. Et moi, je ne l'avais plus vu depuis des années, cet ami-là. Et donc, je ne connaissais pas tellement ses amis. Et on pouvait s'asseoir où on voulait. Et donc, on était 200-300 dans la salle. Et au loin, je vois dansant sur un banc ce mec et avec son chapeau de cow-boy. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, c'est comme dans les films. Je suis pétrifiée sur place et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau.
Coup de foudre.
Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui émanait de lui, une énergie. Enfin, je le trouvais beau. Et je me dis, mais est-ce que moi, je pourrais m'asseoir là, à côté de cet homme-là? Et alors j'ai cet instant décisif que moi j'adore dans les romans, quoi, où en fait tout se décide, quoi. T'as la vie A ou la vie B.
Ouais.
Et j'allais faire un pas vers la gauche et puis je me dis mais non, je vais aller tout droit. Et donc j'ai été vers lui, je lui ai dit est-ce que je peux m'installer à ta table. Il m'a dit oui, pas de souci. Il m'a tout de suite accueilli. Et en fait à sa table il y avait que ses meilleurs potes, donc il se demandait vraiment c'est qui cette fille qui s'incruste. Et voilà, là a commencé une belle histoire d'amour qui est toujours là aujourd'hui. C'est vraiment... En fait, j'avais toujours voulu trouver un homme qui a un grand cœur.
Mmh.
Et cet homme a un cœur immense. Moi, j'avais besoin de me sentir acceptée, besoin de me sentir aimée. J'avais besoin de réparer des choses. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec avec lui, je suis née, quoi. Je suis née à moi-même. Je suis devenue... Enfin, j'ai créé la vie. Enfin... J'ai vraiment l'impression, souvent, je le dis dans mes interviews, c'est très bateau. Je dis que l'écriture, les romans, c'est grâce à lui, mais c'est vrai. Parce qu'il m'a vraiment permis de devenir qui je suis. Et il m'a toujours soutenue. Et voilà, c'est vraiment... je suis hyper heureuse de l'avoir attendu 33 ans et 4 jours.
T'es toute émue.
Ouais, ça, enfin, c'est chouette, enfin... J'aime bien les belles histoires.
Mm.
Et c'est... Enfin, c'est une chance d'avoir de l'amour, je trouve. Parce que c'est pas gagné. je savais qu'il voulait beaucoup d'enfants. Et je lui ai tout de suite dit, je lui ai raconté cette histoire de cette gynécologue. Et on a décidé, enfin, il m'a demandé en mariage. On a décidé de se marier civilement et de commencer tout de suite les enfants et se marier religieusement plus tard. Et on a décidé aussi de commencer à essayer avant le mariage civil qui était un mois plus tard, parce que, enfin, voire deux mois plus tard, parce que comme ça semblait que j'allais avoir besoin d'années entières pour pouvoir tomber enceinte. Bon, voilà. Et en fait, je suis tombée enceinte en 4 semaines, enfin, oui. À peu près. Je pensais pas tomber enceinte tant que j'avais pas trouvé l'homme de ma vie, mais une fois que je l'avais avec moi, je sais pas, je suis du genre à être très très optimiste.
Oui.
Et donc, je m'étais dit, je fais ce test de grossesse, je crois que j'avais un jour de retard, ou peut-être même pas. Je me suis dit, il y a quelque chose, je sais plus s'il y avait quelque chose de bizarre ou quoi, mais je me suis dit, je le prends, et il fallait le faire tôt le matin. Et je me suis réveillée, j'ai fait ce petit test, mais alors il était 6h du matin, donc je me suis réveillée naturellement. Et puis je suis revenue dans notre lit, et là, il a ouvert les yeux et m'a dit « tu es enceinte ». J'avais un sourire tellement jusqu'aux oreilles, j'ai même pas pu le dire. C'était super, c'était vraiment une chance inouïe de tomber si facilement enceinte, quoi. C'était dingue. On l'a annoncé à toute la famille. Moi, j'étais très, très, très malade, mais pour toutes mes grossesses. Et donc, j'étais malade en permanence toute la journée. Je crois que j'avais ce truc de Kate Middleton pendant 5 mois d'affilée. Vraiment, c'était très, très, très dur. Et avec cette première grossesse-là, ça a été quand même assez... surprenant et un peu compliqué au début, parce que après quelques mois on a fait ce fameux test sanguin et on nous a dit bon voilà, en fait vous avez plus d'une chance sur 5 ou sur 3 d'avoir un enfant qui est handicapé, mais gravement handicapé, donc du style pas viable. Au départ, enfin, moi j'ai dit à la gynécologue, moi j'étais très naïve, j'ai dit on verra bien, quoi, à l'accouchement. Elle m'a dit, mais non, vous pouvez pas. Et donc, elle m'a donné rendez-vous très gentiment à 20h le soir en son cabinet pour m'expliquer. C'est pas un handicap simple, c'est un handicap du style, enfin, ce qu'on voyait dans la prise de sens, c'était que ça avait l'air d'être quelque chose de très très lourd et que donc on peut voir son enfant mourir dans les heures qui suivent la naissance, quoi. Ah oui. Ce type d'handicap-là, et qu'on devait absolument faire une amniocentèse pour investiguer, pour voir ce qu'il en était.
Là, t'étais à combien de mois de grossesse ?
3,5, je crois.
D'accord, ok.
Et là, moi, j'étais complètement catastrophée. J'avais l'impression de faire du mal à ce bébé en faisant la myosynthèse. J'étais pas fort dans la réalité. Hein. C'était quelque chose. C'était vraiment une grosse épreuve de faire ce test.
Comment ça se passe, ce test ?
Alors, heureusement, on a une famille de médecins, donc j'avais trouvé la personne hyper top, hyper compétente. Donc, on était dans un autre hôpital. Et donc, en fait, ça se passe avec une écho. On a une aiguille très gigantesque qu'on plante dans le ventre et on va, je crois, prélever un peu de liquide qu'on va analyser après. Et je me rappelle sur cette écho voir mon bébé et voir sa main qui vient caresser comme ça l'aiguille. Enfin, c'est impressionnant, mais en fait, normalement, si on reste bien allongé, si on ne bouge pas après, ce que j'ai fait pendant 24 à 48 heures, vraiment pas bouger, normalement, il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'il y a un risque de fausse couche toujours. Donc, pour moi, ce n'était pas anodin de faire ce geste-là. Enfin, je me sentais fort responsable, limite coupable, alors qu'en fait, bon, voilà, c'était une procédure. Enfin, j'allais dans une procédure. Et puis après, bon, il a fallu attendre 2 semaines, je crois. Et alors, il est revenu à la nouvelle qu'en fait tout était normal et tout allait bien. Donc là, j'ai pu reprendre la grossesse. Je crois que pendant cette phase-là, j'ai expliqué à mon bébé, je lui ai dit, voilà, je suis vraiment désolée, mais je suis complètement déconnectée de toi parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, je ne vais pas te parler pendant quelques jours. Je suis vraiment désolée. J'ai expliqué au bébé.
En attendant les résultats.
Oui, parce que je me sentais fort déconnectée. Et je me suis dit, bon, je vais au moins expliquer. Et voilà, et c'est la vie. Parce que je trouve que souvent, moi je vois énormément de gens qui culpabilisent les femmes parce qu'elles sont stressées, parce qu'elles sont si pendant la grossesse, et je trouve que c'est débile, parce que dire à quelqu'un de stressé, relaxe-toi, c'est mauvais pour ton bébé, enfin je trouve que c'est le pire truc à dire, quoi. Et que je trouve que parfois on peut expliquer, les bébés pour moi peuvent comprendre que un parent peut traverser des choses, et je trouve que si on explique, si on est dans le dialogue, c'est rester dans la connexion, même si on n'est pas ce qu'on aimerait être à ce moment-là. C'est-à-dire, moi, je manquais de mots pour cet enfant, j'étais un peu perdue. Mais je lui ai dit, voilà, je suis comme ça, et c'est pas à cause de toi, c'est la situation, et que je ne sais pas faire mieux, je suis vraiment désolée, mais je te jure que, voilà, après, je vais me rattraper.
Et tu te préparais à l'éventualité de devoir t'en séparer ?
Pour moi, c'était inimaginable.
Oui.
C'est vraiment, c'était quelque chose de très très compliqué. Donc, je voulais même pas y penser parce que je crois que on en parlera peut-être après. Mais quand j'ai dû faire j'ai eu une fausse couche et j'ai dû faire une opération. Même ça, alors que le bébé était mort, c'était très compliqué pour moi. Alors que bon, enfin, il y avait pas d'autre ici. Donc voilà, mais heureusement, j'ai pas eu. J'ai beaucoup pensé aux parents qui doivent faire des choix dans ce genre de situation. Je trouve que c'est inhumain et j'en ai parlé à certains médecins. Je trouve que les médecins devraient aussi plus se positionner, plus aider les parents à prendre des décisions dans ce cas-là. Parce que c'est très compliqué avec les degrés d'handicap, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, etc. Je crois que c'est. Enfin voilà. Mais dans mon cas, les choses sont revenues à la normale, sauf que j'ai su à ce moment-là que les grossesses futures, en fait, comme j'avais des taux hormonaux bizarres qui me rendaient malade, mais qui faisaient aussi que les prises de sang étaient bizarres, et que du coup on avait l'impression qu'il y avait un souci, les grossesses futures, je devrais toujours passer par. Mais après, il y a une prise de sang pour déterminer les handicaps, etc. Mais je devrais toujours passer par cette attente, donc. Pas se sentir enceinte le premier jour, mais le quatrième mois, quoi, à peu près. Mais bon, voilà. Et donc, à ce moment-là, finalement, la grossesse après s'est bien déroulée. On a su qu'on attendait une petite fille. Et donc, on est arrivé au terme. Et là, on l'a vachement dépassé. Je crois que j'arrivais à J plus 9 ou J plus 10. Et donc, on nous a dit qu'il fallait provoquer. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces super podcasts comme le tien qui nous renseignent tellement de choses, qui nous... Franchement, si je pouvais prendre une machine à remonter le temps et faire tellement de choses différemment maintenant qu'on est tellement instruits. Bon, moi, j'ai juste dit, OK, accouchement provoqué, très bien, je fais ça, chef. OK, je suis venue, on m'a mis les tampons... Et puis, en fait, j'avais des contractions hyper violentes, mais on ne me donnait pas la péridurale et donc je souffrais hyper fort. Mais voilà, j'ai vraiment détesté ce premier accouchement parce qu'on me disait, mais vous en avez pour des heures, on ne va pas vous mettre une péridurale tout de suite. Et puis alors, finalement, comme j'ai vraiment demandé, ils me l'ont mise. Et là, ils ont vu que j'étais à dilatation complète. Donc, j'ai des contractions qui font que la dilatation se fait extrêmement rapidement en quelques minutes. Et je ne le savais pas, évidemment, à ce moment-là. Je ne savais pas si j'avais le droit de demander une péridurale ou pas. Enfin, bref. Heureusement, j'adore ma gynécologue qui arrive à ce moment-là parce qu'en Belgique, on accouche avec les gynécologues, pas avec les sages-femmes la plupart du temps. Et ma gynécologue est très chouette, très centrée. Et donc, je me suis concentrée sur elle et alors, en quelques poussées, mon bébé est sorti. Et là, je me souviens m'être dit, comment est-ce que je vais faire pour être mère toute ma vie de cet enfant-là, quoi.
Ah oui, dans quel sens ?
Mais c'est comme si, en même temps que mon bébé jaillit de mon ventre, il y a cette immensité, ces milliers de journées qui jaillissent en même temps. Et tout d'un coup, cette sensation profonde du temps. Et de la responsabilité immense et du petit bout de femme que moi j'étais avec toutes mes ignorances et comment on fait pour aimer, comment on fait pour bien aimer, enfin plein de questions. C'est marrant parce que je l'ai eu, je crois, à 34 ou je venais d'avoir 35, je sais plus, mais j'étais encore, c'est bien que je l'ai eu tard en fait parce que j'étais encore fort. Jeune dans mes connaissances, quoi. Je trouve dans mes connaissances de la maternité, du rapport à un enfant. Et j'étais vraiment... mon premier réflexe, c'était vraiment une peur en voyant ce bébé arriver vers moi, de me dire, mais est-ce que je vais savoir être mère? Est-ce que je vais savoir comment on fait? On l'a mis sur mon sein, je voulais allaiter. Et en fait, là, elle a commencé à pleurer et elle n'a plus jamais arrêté pendant des mois. Sauf que ça n'a vraiment pas aidé à mon sentiment de compétence qui était de 5 au début, 5%. Elle vite arrivée à 0%. Et là, à nouveau, on n'avait pas les podcasts. Moi, je ne savais même pas ce que c'était du reflux. Donc, j'avais ce bébé qui hurlait en permanence, que je prenais tout le temps dans mes bras et donc j'avais... tout mon cou, tout mon dos qui était contracté, donc je n'avais plus dormir tellement à force de porter ce bébé parce que je me rendais compte que dans mes bras, ça allait un peu mieux. Et donc, il a fallu du temps, il a fallu plusieurs semaines, mois, avant que je comprenne si c'était du reflux, que je connaisse l'existence de ce terme-là, que...
Les pédiatres ne t'avaient pas renseigné
Non. Mais les pédiatres, avec une nouvelle maman, ce qui se passe souvent, ils disent « les bébés, ça pleure ». Enfin, moi, c'est ce que j'avais comme réponse. Le bébé, ça pleure. Et je me dis, t'es une crétine, quoi. Un bébé, ça pleure, évidemment. Mais bon, je le disais quand même jour et nuit, là. Enfin, il n'y a pas beaucoup de pauses. Et vraiment avec des cris vraiment forts, stridents. Et donc, je suis vraiment arrivée à un point où je me sentais complètement incompétente. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire mon premier livre de développement personnel que je voulais adresser à toutes mes autres compagnes de route dans ce chemin où franchement, je ne m'en sortais pas du tout. Je me suis dit, je vais expliquer aux autres comment faire. Je rigole.
Parce que là, tu étais avocate à ce moment-là, à cette période-là.
J'étais encore dans un gros cabinet d'avocats anglais. Et est-ce que j'étais encore avocate ou j'étais dans le management, quelque chose comme ça.
Et le congé maternité, il dure combien de temps en Belgique?
Alors, il dure 3 mois, puis on peut rajouter 4 mois de congé parental aujourd'hui, mais à l'époque, je crois que c'était peut-être 2 ou 3. Moi, j'avais pris 5 mois.
D'accord.
Bon, maintenant, je prendrais 1 an ou 2, mais à l'époque, je pensais que on ne pouvait pas prendre plus.
Donc, c'est pendant ton congé maternité que tu as commencé à écrire? Ouais.
Et ça a vraiment été un souffle pour moi, même si c'était, entre guillemets, juste des livres pratiques qui n'étaient pas tout à fait mon rêve, mais déjà... En fait, ça me permettait déjà d'être dans une sorte de transe très calmante, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, et donc le calme, le silence, être juste dans ce flot d'écriture, en fait, c'est hyper apaisant pour moi. C'est vraiment... ça me nourrissait et ça me permettait d'avoir un tout petit espace à moi dans ce monde qui était complètement bouleversé et un espace que je maîtrisais aussi parce que les mots s'inscrivent sur la page comme ça, je maîtrise. Donc ça a donné cette impulsion-là. Je me souviens, mon aînée, donc Alice, avait 4 mois et je me souviens, elle est à plat ventre sur le sol et... une maison d'édition me dit ok, on veut bien, parce qu'avec mon profil avocate etc, on veut bien que vous nous proposiez un pitch, et là je me suis dit ok, je me donne 1 heure pour faire ce pitch de ce livre que je vais réfléchir, enfin auquel je vais réfléchir pendant 1 heure, pas plus, parce que sinon ça va durer des semaines et des semaines où je vais me casser la tête. Et donc je me suis donné 1 heure avec Alice à côté de moi et hop, j'ai lancé le truc et ils ont dit d'accord. Et voilà.
Donc t'as contacté la maison d'édition avant même de,
oui.
De la
ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'optimisme. Oui, oui, c'est quelque chose qui est un peu toujours de foncer comme ça, c'est foncer tête baissée dans les trucs sans beaucoup de réfléchir. Mais en même temps, c'est comme ça que les choses se passent, parce que je crois que si j'y réfléchissais, je me disais, oh, mais non, pourquoi tu fais ça, enfin, ouais.
Génial.
Donc voilà, et alors, donc les premiers mois, j'ai vraiment trouvé ça difficile, la première année, j'ai vraiment trouvé ça difficile parce qu'on ne dormait pas.
Et ton chéri, il avait combien de temps de congé, lui, de son côté?
Ah, je crois qu'il a pris 0 jour,
ah oui.
Ou peut-être 1 jour ou 2, parce qu'en fait, c'est... Et c'est sa il a sa propre société. Et bon, enfin, je veux dire, nous, on partait du principe, c'est quand même un bébé, quoi. Enfin, je veux dire, on a tout le temps de faire plein de trucs, ce bébé dort. Enfin, je veux dire, on avait pas du tout, on était tous les deux aussi incompétents l'un que l'autre, plein d'amour, hein, mais incompétents. Et aussi naïfs l'un que l'autre. Et donc, voilà. Mais je me souviens quand même d'une fois où. Il était parti depuis 20 minutes, enfin une demi-heure, et je le rappelle, je dis, il faut que tu rentres là, je n'y arrive pas du tout. Parce que je ne sais pas, il fallait tel produit ou tel truc. Donc j'ai parfois appelé à l'aide, mais c'est vrai que, aussi on vivait en pleine campagne, donc j'étais assez, allez, plus seule, parce qu'on venait d'emménager en fait quelques mois plus tôt, dans une nouvelle région. Puis quand Alice avait 1 an, on s'est dit que comme on en voulait plus, enfin mon mari en voulait 3, moi après l'accouchement d'Alice je voulais juste 1 enfant, mais bon. je me suis dit c'est peut-être une erreur cet accouchement, on va voir. Et donc on s'y est remis assez vite, on s'est dit on n'aura peut-être pas autant de chance que la première fois, et on était en Italie et puis en fait j'étais enceinte directement. Donc ça c'est la première fois, c'était bon. Et là, donc, il a fallu attendre ces 4 mois pour voir que tout était bien. Aussi complètement super malade. C'était un petit garçon, là. Et alors, il s'est passé quelque chose, je trouve, qui détermine fort sa personnalité aujourd'hui. C'est qu'à 7 mois de grossesse, j'étais dans la rue et je me suis écroulée sur moi-même à cause d'un pavé. Et j'ai fait ce qu'on appelle une entorse de Liffrand. Et en gros, j'étais à la clinique du pied, ils m'ont dit, si vous posez le pied par terre, juste posez le pied, tout va exploser et vous en aurez pour une opération avec 6 mois à l'IT. Donc là, vous avez 2 mois, faites vos calculs. Et donc, j'étais enceinte de 7 mois. Et donc, j'avais ces béquilles, mais je ne pouvais même pas poser un pied à terre. Et donc, il fallait que je saute sur un pied avec mon énorme ventre, puisque je prends 18 kilos par grossesse, moi. C'est mon petit truc, j'aime bien. Moi, je suis tellement malade que je mange tout le temps et n'importe quoi. Enfin, alors que normalement, je mange assez sainement, donc mon corps ne comprend rien. Je me recouvre d'une belle pellicule de cellulite un petit peu partout. Enfin, c'est charmant. À ce moment-là, ah oui, je m'étais embarquée dans un projet, enfin, je suis toujours assez passionnée, et j'aime bien faire plein de choses, et je m'étais embarquée dans un projet d'élection européenne. Il y avait un mouvement citoyen belge qui s'était créé, il m'avait demandé de les représenter sur la liste, enfin, le truc, n'importe quoi, enfin, qui fait ça enceinte de 9 mois, enfin, bref. C'était très drôle, on s'est bien marré, c'était un groupe de jeunes, enfin, c'était très rigolo. Mais bref, j'apprends cette nouvelle que j'ai eu 2 mois allongés, moi qui suis une hyperactive, qui bouge tout le temps, qui est... pendant les 4 premiers jours, évidemment, je râle un peu parce que c'est contre ma nature. Mmh. Et puis en fait, après, c'était vraiment hyper chouette comme expérience parce que ça m'a permis d'accéder à quelque chose d'autre qui était une forme de calme intérieur. Je me suis posée, j'étais plus présente à cette grossesse parce qu'en deuxième, parfois, on a un peu... Alice, ça va 1 an et quelques, donc on a un peu sur le premier, mmh. on travaille, etc. Mmh. Et donc j'ai trouvé ça chouette parce que je suis arrivée en béquille à la salle d'accouchement et en fait ça a vraiment impacté, je trouve, ce petit bonhomme. Je sais pas, il est hyper zen.
Ah oui.
Il est très heureux, très créatif, mais très zen, très bon, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui le bouleversent, enfin très et voilà, l'accouchement était très zen aussi, enfin je crois qu'ils m'ont donné la péridurale un petit peu plus tôt, enfin j'ai directement eu en arrivant à l'hôpital. Alors, on s'est fait arrêter par la police d'ailleurs sur la route parce, que, ouais, parce qu'on roulait trop vite. Mais il était 3h du matin, les rues étaient désertes et comme on est à plus d'une heure de l'hôpital et que j'avais assez mal, on s'est dit que le bébé était en train d'arriver. Et donc ça, c'était chouette de voir aussi les policiers qui nous arrêtent et leur enthousiasme, quoi. Quand, ah, mais attendez, on va vous accompagner, alors yeah.
Ils ont mis les sirènes.
Je me rappelle plus précisément, mais je me rappelle d'un accompagnement. Maintenant, en tant que romancière, il faut faire attention, parce que c'est peut-être mon imagination.
Je t'ai escortée. Ouais,
avec un carrosse et tout, c'était dingue. et donc voilà, j'accouche de ce petit bonhomme. Et ben déjà je connaissais un petit peu plus les choses, mais comme sa sœur, son aîné, il a eu aussi du reflux. Mmh. Et donc on a enchaîné vraiment les nuits sans dormir. On n'avait pas terminé les, enfin la première faisait toujours pas ses nuits, qu'on a enchaîné avec le deuxième. Mais bon, très, enfin très chouette petite vie de famille. Et j'ai continué, à ce moment-là, je crois que j'ai sorti... j'avais déjà sorti 2-3 livres à ce moment-là et je sortais presque le 4e.
Parce qu'alors là, du coup, t'avais complètement arrêté ton job...
Je faisais en même temps. Je faisais les deux en même temps.
Donc tu faisais des bébés, t'étais avocate, ouais. Et tu écrivais des
livres. Ouais, dans le management d'une boîte, enfin d'un cabinet avocat et écrire, qui était vraiment ma bouffée d'air, quoi. Ouais.
Comment tu trouvais le temps de faire tout ça ?
Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand Gary, donc mon deuxième, avait 15 jours, je me sentais un peu seule comme ça à la campagne. On connaissait pas encore grand monde. Et je me rappelle d'avoir mis le coussin d'allaitement, mis Gary au sein parce qu'il avait du reflux, donc il voulait tout le temps manger, et mis mon ordinateur. J'ai commencé à écrire et j'ai écrit en une semaine... j'avais écrit un petit livre sur la digital detox, enfin quand même le gros paradoxe, quoi, la nana avec son ordinateur, alors la digital detox. Voilà. Et donc voilà, c'était un peu ma bouffée d'oxygène. C'était très chouette de rédiger ces petits guides pratiques ou livres pratiques ou livres de mon perso, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'était pas tout à fait une fin en soi. Mmh. Et
ce que je voulais, c'était écrire des romans.
Voilà, je crois, oui. Mais comme dans ma famille, j'avais toujours reçu ce message, je sais pas à travers quelle phrase, que moi j'étais pas une artiste, c'était plutôt une intellectuelle, mais une intellectuelle plus, enfin pas créative, mais pas que j'avais un message précis là-dessus, mais moi j'avais l'impression que c'était ça et que moi j'étais plutôt destinée à être avocate, j'avais un cerveau qui fonctionnait bien. Pour moi, écrire des romans, il fallait être créatif, il fallait être un peu artiste, et que moi, j'étais trop sérieuse pour ça. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose autour de ça, jusqu'au jour où, un peu après la naissance de mon deuxième, mon mari m'a dit, mais pourquoi tu tentes pas d'écrire un roman, quoi ? Pourquoi tu te donnes pas cette chance ? Et je lui ai dit, parce que si je travaille 6 mois là-dessus et que ça donne rien, j'aurais perdu 6 mois. Il me dit, mais on s'en fout. et à ce moment-là, j'étais plus que coach. J'avais quitté, donc après, je suis jamais retournée dans ce gros cabinet d'avocats dans lequel je travaillais après la naissance de mon deuxième. Je suis restée juste coach. Et donc, je donnais des conférences et je faisais du coaching et j'écrivais mes livres. Et donc, j'ai commencé à écrire ce roman. Et là, par chance, j'écris 20 pages. Il y avait Karine Bailly, qui est la directrice de Charleston, qui m'avait dit, le jour où tu écris un roman, dis-moi, parce qu'on avait pris contact, parce qu'elle avait lu mes livres développement perso, dis-moi et on peut se rencontrer. Et donc, je l'avais rencontrée à Paris, elle avait lu mes 20 premières pages. De nouveau, la nana qui attend pas d'avoir la fin du texte, j'imagine que tu vas me dire ça. Oui, en effet, c'est vrai que c'est bizarre.
C'était quoi le thème?
Alors, le thème, c'était dans une maison sur une colline, parce qu'en fait, on est dans notre coin, c'est un peu vallonné, et j'avais vu une maison en haut d'une colline, et j'avais dit à mon mari, le jour où j'écris un roman, il commencera là, dans cette maison-là. Et c'est comme ça qu'était venu le sujet. Et donc, le roman parle d'une petite fille de 6 ans qui se réveille un matin dans cette maison en haut de la colline, et ses parents ont disparu. Et donc, on va la suivre à la fois à 6 ans avec son destin d'orpheline et à 24 ans où elle va dénouer le mystère entourant les disparitions de ses parents. Et c'est mon seul roman, en fait, où il n'y a pas un thème sociétal. Parce qu'à chaque fois, après, j'ai mis des thèmes sociétaux qui étaient importants pour moi. Et donc, voilà, Karine Bailly m'a rencontrée à Paris sur une terrasse. Elle a lu 20 pages devant moi. Et elle m'a regardée, elle m'a dit... Et tu connais la fin? Et j'ai dit oui, bien sûr, alors que pas du tout, j'ai aucune idée où on allait. Elle m'a dit très bien, alors on signe. Et il est paru quelques jours avant l'accouchement de ma troisième. On voulait un troisième enfant. Quand Gary avait plus ou moins un an, on est complètement fous en fait. Et qu'on dormait toujours pas la nuit, on s'est dit. Bonne idée, on va faire un troisième. C'est tellement génial ce truc. Enfin, quand tu te dis, parfois, quand tu revois ta vie, tu te dis, mais allez, quoi. Mais non, mais en fait, on voulait trois enfants et j'étais vieille. Donc voilà, il fallait bien aller sportif. Et donc, on s'est remis au travail. Et là, de nouveau, bam, enceinte du premier coup. Après quelques semaines, en fait, j'ai dû faire une écho et le petit cœur s'est arrêté de battre. Et donc la gynécologue m'a dit que c'était normalement la fin, mais que c'était trop gros pour faire avec les médicaments, qu'il fallait faire une opération sous anesthésie générale, un curetage.
Comment tu l'as vécu toi psychologiquement, cette fausse couche?
Alors moi c'était très difficile de faire ce curetage, alors que c'est pas que, enfin, c'était cette intervention, je me sentais fort coupable, alors que j'avais rien fait. En fait, je m'en suis, je trouvais ça difficile pendant quelques jours d'avoir cet enfant mort en moi, d'attendre l'opération. Heureusement, elle m'a dit, vous avez trop de chance, on est en plein été, le bloc est disponible. Parce qu'en fait, j'ai dû attendre. D'abord, on a dû revérifier une deuxième fois, faire une deuxième écho quelques jours plus tard. Et puis, ce jour-là, elle m'a dit, mais vous avez de la chance à fond, demain, il y a un bloc dispo pour vous, on y va. Moi, ce qui était difficile, c'est ces quelques jours-là. Et puis, en fait, après, le jour de l'opération... je l'ai croisée dans les couloirs avant de monter en maternité, parce qu'on est toujours reçu en maternité. Et elle m'a dit, j'arrive tout de suite chez vous, d'abord je vais accoucher des jumelles. Je pense qu'elle voulait pas mal faire, c'est une très chouette femme, mais je me suis dit, ok, super, enfin ok. Et puis j'étais en maternité et il y avait une très chouette infirmière qui m'attendait avec moi et qui me parlait de plein de choses. Puis je suis rentrée au bloc et là les infirmiers étaient très sympas aussi, ils blaguaient sur le fait que l'anesthésiste était super beau. Puis alors moi je disais, mais j'espère qu'il est compétent aussi. Enfin, alors elle se rendait compte un peu de la bourde. Et puis enfin, l'atmosphère, on sentait, je trouve qu'elles étaient avec moi, quoi, qu'elles avaient une certaine compassion. Et moi, j'étais un peu, évidemment, c'était un peu triste comme moment, parce que voilà. J'ai repensé à ce que la gynécologue m'avait dit avec cet accouchement de jumelles, et j'ai dit, au fond, comment ça s'est passé, ces jumelles? Et alors, elle a commencé à raconter et soudain, l'atmosphère du bloc s'est complètement modifiée, quoi. Et moi, on a mis le masque pour que je m'endorme et j'ai pensé en m'endormant. Et j'ai dit, s'il y en avait un qui partait, pour en avoir deux, par exemple. Et donc, j'ai eu cette image magnifique et d'espoir et je me suis réveillée. Enfin, le produit anesthésiant a différents effets. Moi, j'étais complètement euphorique. Je vois la vie super belle. je suis sur un groupe de 4000 mamans. J'avais cherché des infos sur le curetage, les fausses couches, etc. Et il n'y avait absolument rien. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais témoigner avec mon parcours à moi, ça servira peut-être à d'autres mamans. Et donc, j'ai témoigné et en fait, j'ai eu des centaines de réactions. Mmh. À l'époque, c'était à presque 5 ans, il y avait encore très peu de choses qui étaient dites. Mmh. Et ça a été vraiment super chouette parce que ça m'a permis de donner, entre guillemets, une fonction ou un sens à cette perte. Parce que ça permettait au moins d'accompagner d'autres mamans dans le processus. Parce que, enfin, des années plus tard, j'ai eu, parce qu'on peut chercher par mots-clés, des années plus tard, j'ai eu encore des femmes qui disaient « Ah, ouf, j'ai trouvé ton témoignage. » Parce qu'en fait, c'est vrai, on se demande comment c'est, est-ce qu'on va avoir mal. Et puis, je parle aussi des autres aspects. Et bon, évidemment, c'était pour un troisième, donc c'est 10 000 fois moins grave que quand c'est pour un premier, parce que j'avais déjà 2 enfants. Et bref, l'un dans l'autre, à partir du moment où j'ai fait ce témoignage, moi j'étais libérée. Enfin, c'était fini. Et je suis arrivée chez ma gynécologue pour voir le check après l'opération. Un mois et demi plus tard, enfin, voir si tout était bien. Et en fait, c'était le premier jour de mon cycle. Et elle m'a dit, comment vous sentez aujourd'hui? Enfin, ça va? Vous vous sentez bien moralement? Et je dis, écoutez, en fait, c'est peut-être même le premier jour de ma prochaine grossesse. Et en fait, 15 jours plus tard, j'étais enceinte. J'avais énormément de chance. Donc, à la gynécologue qui, quand j'avais 31 ans, m'a dit que j'étais infertile, elle s'est vraiment gourée, je crois.
Tu l'as jamais revue?
Non. Mais du coup, ça m'a fait vraiment mesurer la chance immense de pouvoir avoir des enfants, quoi. Parce que pour moi, j'aurais jamais cru pouvoir en avoir 3. Enfin, dingue, quoi. Et donc voilà, et la grossesse de ma troisième, c'est plus ou moins bien passé. De nouveau, 5 mois super malade, prise de 18 kilos. En fait, à partir de 2 mois avant naissance, on aurait dit qu'elle arrêtait de grandir et de grossir. Donc finalement, on a fait un accouchement provoqué pour qu'elle sorte. Et je suis arrivée à l'hôpital, ils ont mis tous les produits, etc. J'avais choisi comme date le 27 juillet. Et c'est une date que j'ai utilisée pour mon troisième roman qui se passe dans une petite ville que j'ai inventée, Black. Et tous les 27 juillet, c'est un jour où les gens doivent penser à se réinventer professionnellement, dans leur vie privée, etc. Et donc c'est une date de légende, parce qu'en fait la fête belge c'est le 21 juillet, et donc je voulais faire un petit clin d'œil à ça, et j'avais choisi le 27 juillet, ce qui est une date que j'adore et que j'ai aussi choisi pour cet accouchement, puisque pour les accouchements provoqués, on choisit. Et donc voilà, j'arrive ce 27 juillet. J'ai une première contraction qui est hyper douloureuse, et là c'était chouette parce qu'il y a une sage-femme qui était là qui m'a dit j'appelle tout de suite l'anesthésiste parce qu'en fait vous avez des contractions vraiment fortes, très très fortes directement, très violentes. Et j'ai dit oui, et surtout me lâchez pas trop parce que ça tombe dans 10 minutes, j'accouche, d'expérience ça va très très vite. Et elle me dit mais non, il faut du temps, vous avez rien du tout. J'ai dit écoutez, c'est pas de souci, mais alors c'est vous qui allez m'accoucher et pas la gynécologue, parce que enfin voilà. Et elle me dit, mais non, jamais. Enfin bref, l'anesthésiste arrive, pose sa péridurale. Oui, parce que moi, je vomis aussi quand j'ai pas de péri. Donc, toute l'équipe est ravie de me la donner. Et alors, je l'appelle quelques minutes plus tard. J'ai écouté, checké quand même. Et là, en fait, elle check et j'étais directement à dilatation complète. Et en même temps, le battement cardiaque, ou je ne sais pas quelle donnée, mais en un coup, ça commence à être problématique, l'accouchement. Donc, j'ai une sage-femme qui me monte dessus, qui se met à cheval sur moi. Il y a plein de gens qui rentrent dans la pièce. On appelle un gynécologue en urgence qui arrive, qui jette ses chaussures à travers la pièce, qui vient directement près de moi. Et on dit, il faut la sortir hyper vite, là. Donc, je ne sais pas très bien, mais apparemment, elle était très haute. Elle est descendue très rapidement et l'accouchement était presque immédiat après ça. Et donc, ça a créé plusieurs soucis qui ont vachement pollué ces premières années de vie. Parce que donc, elle est sortie. Et donc là, on a voulu me l'attendre. Et je vois ce petit truc bleu, tout minuscule, tout maigre. Et on veut me mettre sur moi. Et moi, je suis là, mais enfin, non, quoi. Enfin, je n'ai pas entendu crier. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, je sens, je me dis, il y a un souci. Et donc là, toute l'équipe dit, on la prend en réa, on va l'aider à prendre son premier souffle, madame. Ok. Et donc, je me retrouve dans le silence de la salle. Je crois que je l'entends crier en passant la porte. Mais j'entends surtout tout le personnel qui dit « Elle est si petite, elle est si maigre, et le placenta est tellement bizarre, regardez sa forme. » Et j'entends toutes ces phrases. Et puis la salle se vide avec le bébé, il y a juste la gynécologue qui reste pour me recoudre, puisque j'avais chaque fois droit à une petite épisio. Et j'entends, et il y a ces phrases qui reviennent, quoi. « Elle est si petite, elle est si maigre. » Et alors, il y a 20 minutes qui passent, et évidemment, mon mari est parti avec elle, et j'ai pas de nouvelles. Mmh. Et donc, je me dis vraiment, je m'en rappelle être sur ce lit, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers, quoi. Et je me dis, voilà, en fait, mon bébé est soit mort, soit handicapé à vie, parce qu'il y a des soucis d'oxygène, ou je sais pas quoi, j'avais vraiment rien compris de ce qui se passait. Je comprenais juste que tout le monde était hyper stressé, et qu'il semblait y avoir quelque chose, et qu'il y avait trop de monde dans cette salle d'accouchement pour que ça soit normal, quoi. Et finalement, on me la ramène. Et là, je me dis, voilà, ils n'osent pas me l'annoncer tout de suite. Ils vont me le dire plus tard, qu'il y a un gros souci, etc. Et donc, pendant 24 heures au moins, j'ai cru qu'il y avait quelque chose de très grave.
Et qu'on n'osait pas... Parce qu'on ne te disait rien pendant 24 heures.
Ouais. Et que moi, j'ai pas vu ma gynécologue après. Et en fait, on nous a directement envoyé dans une unité qui est une unité spécialisée pour les petits pois. Parce que ma fille était beaucoup trop petite et trop mince. Et donc, c'était déjà... on devait, en fait, moi j'ai rapidement été très fatiguée parce qu'on me réveillait toutes les heures 30 pour donner à manger au bébé au sein. Il fallait absolument que l'allaitement fonctionne parce qu'elle pouvait pas avoir, devait avoir une très bonne immunité parce qu'elle était trop maigre pour pouvoir être malade. Enfin, il fallait que tout marche. Et là, à nouveau, a posteriori, je saurais ce que je sais aujourd'hui, je leur dis, donnez-lui un biberon tout de suite, quoi, à cet enfant. Enfin, il faut qu'elle s'engraisse et, enfin, bref. Et donc, on reste dans cette unité petit pois, et là, on m'explique la procédure, que mon bébé doit faire un scan du cerveau, des reins, du cœur, de plein de trucs, parce qu'elle a un tel poids et que c'est la procédure. On me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est un mois plus tard, etc. Mais donc, il y avait tout un truc déjà autour d'elle, de pas super simple. Mmh. Mais... en même temps, c'était un bébé, j'ai tout de suite senti ça. Moi, j'ai tout de suite eu confiance en elle. Elle était toute maigre, toute petite, mais quelle guerrière, quoi. À téter au sein, à vraiment vouloir, à vraiment y arriver. Mmh. Vraiment. Allez, moi, j'avais vraiment confiance en elle. Mais seulement, en fait, j'avais pas mesuré non plus. On a été directement voir un ostéo aussi. Enfin, on a essayé de tout bien faire. Mais ce que je. Enfin. Il y avait, je ne savais pas, il y avait un souci de mâchoire chez elle qui a fait qu'elle n'a pas bien pris le sein. Et que donc, elle a, après qu'elle ait beaucoup pris de poids, enfin qu'on a essayé de rattraper les courbes, parce qu'elle est évidemment hors courbe. Donc en Belgique, je ne sais pas si vous avez la même chose en France, nous on a des courbes.
Ouais.
Et donc moi, elle était en dehors des courbes parce qu'elle était trop petite et trop maigre. Et on a vraiment bossé à deux, je l'allaitais tout le temps. Elle a vraiment rattrapé pendant ces trois premiers mois. Puis après, en fait, moi j'ai manqué un rendez-vous parce qu'on était parti à l'étranger chez la pédiatre, et donc je l'ai vue un peu plus tard, et là on s'est rendu compte qu'elle avait cassé une courbe, et elle avait vraiment du mal à prendre du poids, à grandir, etc., alors que j'ai été tout le temps, toutes les heures 30, aussi problématique de reflux. Et il a fallu attendre ces 8 mois où là, la situation, elle a eu une otite, elle a eu des vomissements. La situation s'est vraiment détériorée. Et là, j'ai été voir un quatrième ostéopathe qui a remis sa mâchoire. Et en fait, sa mâchoire n'était pas bien mise. Du coup, elle n'arrivait pas bien à téter. Et quand on lui avait proposé en complément un biberon pour essayer qu'elle s'engraisse, elle ne voulait pas, elle ne savait pas prendre de biberon comme elle ne savait pas prendre de tétine. Elle n'avait pas de tétine, par exemple, elle ne prenait pas le pouce, donc il y avait vraiment une problématique. Et en fait, apparemment, l'accouchement, la brutalité de l'accouchement avait déglingué un peu sa mâchoire, qui faisait que c'était pas bien, tout n'était pas bien mis en place. Donc ça, c'était une première problématique qu'on a détectée à 8 mois et qui a fait que ça allait beaucoup mieux, puisqu'elle a pu commencer à prendre des biberons et à mieux. Mais ça a été, on a été jusqu'à l'hospitalisation Enfin, ce qui est compliqué quand il y a plusieurs petites problématiques comme ça, c'est que c'est vraiment le parent qui est un peu... Faut soit avoir un top médecin qui est créatif et qui peut chercher plein de trucs, soit c'est le parent qui est un peu le médecin et qui va chez plein de spécialistes. Et nous, en l'occurrence, il y a des problèmes d'allergie, problèmes ORL, problèmes... syndrome de je sais pas quoi. Enfin, il y avait plein de petits bazars qui enrayaient complètement sa mécanique. Et en gros, elle a vraiment pas beaucoup dormi, c'était très compliqué pour manger, très compliqué pendant ces 3 premières années de vie. Et c'est seulement vraiment en décembre dernier, quand on a enlevé les végétations et posé des drains, c'était la dernière étape de plein de petits trucs qu'on a réglés, qu'enfin on a eu un enfant qui mangeait normalement, quoi. Enfin, du jour au lendemain, elle a mangé normalement. Et on n'a plus dû se battre pour des choses qui sont vraiment des évidences pour les autres parents, manger, grandir, etc. Elle a enfin pu parler mieux, enfin, entendre, dormir la nuit, ne pas... Enfin, elle était malade constamment, donc elle qui n'avait pas été là les 20 premières minutes de vie, franchement, je sais même... Enfin, elle n'a presque pas été en crèche parce que chaque fois elle était malade, elle devait rester 15 jours à la maison parce qu'on ne pouvait pas lui donner des antibiotiques. Donc, en fait, l'hiver, elle passait complètement avec moi parce que... Oui. Et donc... Ça, c'était aussi un chemin en tant que... En tant que maman, on ne se rend pas compte que des petits problèmes comme ça, enfin des petits problèmes, c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas des maladies graves, peuvent aussi être vachement éprouvants et que, enfin, on n'a pas toujours les réponses et qu'il faut beaucoup chercher les questions des mauvaises nuits, etc.
Oui, et puis heureusement que tu pouvais la garder, toi.
Oui, que j'avais un métier qui est un métier d'écrivain et que voilà, que j'écrivais avec elle. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Et donc là, tu écrivais ton dernier livre qui vient de sortir.
Alors, donc mon premier roman est sorti juste avant sa naissance. Puis alors, pendant sa première année de vie, j'ai écrit mon deuxième roman sur la procréation médicalement assistée. Donc d'une fille qui découvre qu'elle a une réserve ovarienne diminuée. Et donc, elle a 12 mois pour concevoir un bébé ou oublier la maternité. Enfin, en tout cas, de pouvoir concevoir un enfant elle-même. Et j'étais fascinée par le sujet. J'ai interviewé les médecins. C'était génial comme... Voilà, génial comme univers. Et donc voilà, j'ai écrit mon deuxième roman là-dessus.
Parce que la différence aussi, c'est que c'est autorisé, du coup, en Belgique.
Exactement. Et voilà, tu as vu juste. Et en fait, moi, après mon droit, j'ai fait un master en droit de l'homme. Et donc, pour moi, la législation française me paraissait complètement moyenâgeuse. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de contribuer à l'ouverture des mentalités. Comment je peux faire ? En fait, en nous mettant dans les chaussures d'un personnage qui traverse ça, parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour nous faire ressentir en fait ce qu'on ressent dans cette situation-là et la difficulté, etc., etc. Et donc, j'ai fait ce roman-là, puis alors j'ai fait un troisième roman, L'Envol, et puis maintenant mon quatrième roman qui s'appelle Mademoiselle Papillon et qui se passe en partie en néonatologie.
Alors, comment t'es venue cette idée ? Est-ce que t'as été inspirée par ce que t'as vécu avec ta fille ?
Eh bien, en fait, il y avait toujours eu des accouchements dans mes précédents romans. Mon tout premier chapitre jamais écrit est un chapitre d'un accouchement. Et j'ai toujours une équipe de médecins, gynécologues, parce que j'aime bien être tout à fait exacte sur le plan technique, qui relie, qui m'aide à répondre aux différentes questions, à éliminer les petites choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, pour ce quatrième roman, en fait, pendant l'été 2018, j'ai visité une abbaye, l'abbaye de Valloire, où Mademoiselle Papillon, donc un des personnages principaux, a créé un préventorium et a sauvé des milliers de vies, des milliers d'enfants, et a fait des choses fantastiques. C'est une femme incroyable. Et donc, quand j'ai visité cette abbaye, que j'ai entendu parler d'elle, en fait, dans la seconde, je suis tombée complètement amoureuse de ce personnage et je me suis dit, je veux écrire sur elle. Et j'avais envie, en même temps, d'avoir pour relier mon lecteur à ce personnage qui était un peu plus lointain et qui a vraiment existé. J'avais envie d'une intrigue dans le présent. Et à ce moment-là, par hasard, une lectrice que je ne connaissais pas m'a écrit et m'a dit, voilà, je suis maman d'un enfant qui est né prématurément. Et si jamais un jour vous écrivez, enfin je lis vos livres, j'aime bien ce que vous faites, si un jour vous écrivez un livre en néonatologie, j'aimerais bien, je me propose, si vous voulez, vous pouvez m'interviewer. Voilà, elle s'appelait Julie. Vous pouvez m'interviewer pour que je vous partage mon expérience. Peut-être que ça vous aidera. Enfin, une femme très humble. Et donc, je l'ai appelée. Je comptais commencer l'écriture du roman un mois plus tard. Je l'ai appelée. Et là, j'ai passé une heure et demie dans une émotion à écouter son récit. Moi, je ne connaissais pas du tout la néonatologie. Et c'était absolument fabuleux. Son partage, vraiment très, très touchant. Et tellement touchant qu'au lieu de commencer 3 semaines plus tard, j'ai commencé l'après-midi même à écrire ce roman. Et je me suis dit, je vais prendre mon autre personnage principal sera une infirmière en néonatologie, parce que je trouve que c'est un milieu qu'on connaît très peu. Mmh. Et donc, il y a deux néonatologies à Bruxelles qui m'ont ouvert leurs portes. Et j'ai pu aller interviewer des journées entières, infirmiers, médecins, psy, et découvrir notamment une technique qui apporte de l'humanité en néonatologie, qui est encore assez peu connue, qui a été créée par une Américaine, une professeure à Harvard, que j'ai interviewée aussi, qui s'appelle Adelise Hals. Et... en fait, en néonatologie, la technicité est maître parce qu'on a affaire à des... C'est tellement délicat, un corps de 24 semaines, qu'évidemment, on est fort concentré sur la technique. Or, c'est aussi des êtres humains dont le système n'est pas complet, et donc ils sont très sensibles à l'environnement. Et en fait, cette technique, qui s'appelle le NIDCAP, définit en fait des choses qu'il faudrait faire pour pouvoir... accompagner mieux cet enfant, dont par exemple le poids à peau, mais aussi définit des codes pour pouvoir comprendre le langage de l'enfant même à 24 semaines. Donc c'est des codes basés sur l'observation de l'enfant, donc par exemple sa couleur de peau, les bruits qu'il fait, les mouvements. En fait, si on observe vraiment un prématuré, on peut lui décrire son propre langage, donc à tel enfant, c'est tout à fait personnalisé, pour comprendre ces moments d'inconfort et ces moments de confort. D'accord. Pour alors adapter les soins. Donc par exemple, changer un linge, pas quand il est en sommeil profond, donc on voit à son visage, à la façon de se positionner, à son souffle, etc., quand il est en sommeil profond. Et donc l'idée, c'est de vraiment adapter la pratique très technique à justement toutes ces données, ce langage qu'on comprend de l'enfant, mais aussi des principes qui sont ceux du NIDCAP, qui sont de diminuer un maximum les volumes, la lumière, les gestes d'entourer l'enfant. Maintenant, on voit ces petites pieuvres. Enfin, il y a plein de choses qu'on a changées en 10-20 ans grâce au NIDCAP. Dans beaucoup d'hôpitaux, parce que tous les hôpitaux ne le pratiquent pas encore, malheureusement. Oui. Et donc, moi, en faisant toutes ces interviews, j'ai découvert l'existence du NIDCAP. Et mon but, évidemment, avec ce roman, était de pouvoir le faire connaître à un plus grand nombre pour que, voilà, si on a une maman ou une amie maman qui se retrouve en néonatologie, qu'elle sache que ça existe et qu'on peut augmenter le confort de ses bébés et les aider à pousser, parce que ça fait grandir aussi plus vite... ce genre de toutes petites choses, de petits détails qui sont tellement importants pour sa bébé.
Et du coup, l'histoire de Mademoiselle Papillon, c'est quoi le résumé ?
Alors, Mademoiselle Papillon, c'est une femme qui a fait la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière et puis s'est retrouvée assignée par la Croix-Rouge à Vraignes-en-Vermandois dans un dispensaire où elle était censée aider, enfin soigner et aider à reconstruire le village. Et puis, elle voyait comme ça, dans la rue, tous ses enfants en proie à la tuberculose, affaiblis, maigres. Et vraiment, il y avait cette aberration. Je suis en train de soigner avec un bandage et je vois des enfants s'écrouler dans la rue. Et donc, elle a commencé à avoir ce rêve, donc en 1920, de se dire, en fait, moi, j'aimerais bien pouvoir créer une maison qui accueillerait ces enfants et leur permettrait de se reposer, donc un préventorium, pour qu'ils soient plus, pour que dans les milieux défavorisés ou même dans tout milieu, dès qu'on a des enfants qui sont amaigris, fatigués, etc., qu'on puisse les retaper pour qu'ils ne soient pas des proies pour la tuberculose. Et donc, elle va devoir trouver ce lieu qui va être l'abbaye de Valloire. Et elle va construire un projet absolument fabuleux. Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été sauvés par elle. Et surtout, elle va aussi traverser la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un personnage qui est... à la fois, c'est une femme extrêmement forte, extrêmement ambitieuse, extrêmement croyante. Donc, pour elle, les choses vont marcher parce que Dieu est avec elle. Mmh. Ça, c'est génial. C'est quelque chose de très fort chez elle. Mais aussi, qui a un certain humour. Enfin, moi, c'est ce que j'ai perçu. J'ai beaucoup interviewé parce qu'il y avait très peu de choses écrites. Et donc, moi, c'est vraiment le témoignage oral, donc de ceux qui l'ont connu, j'ai interviewé même une femme de 97 ans pour ce livre, 97 ans pour les Français, 97 ans pour les Belges, voilà. Il y a quand même des auditrices belges, des auditeurs belges.
Oui, merci. Je fais la traduction.
Voilà. Et donc, Elle a aussi ce côté, enfin, moi, des anecdotes qui m'ont été racontées, elle a aussi, moi, j'ai perçu beaucoup d'humour aussi chez cette femme, enfin, vraiment le caractère qui me plaît à fond. Et donc, je voulais absolument parler d'elle et mettre en lien, évidemment, le personnage du passé et le personnage du présent.
Des sauveuses d'enfants, en fait, les deux.
Ah, c'est vrai. J'avais pas vu comme ça. Moi, j'avais surtout vu comme des femmes qui incarnent le changement. Parce que dans leur société, avec les codes de leur société, elles induisent quelque chose de nouveau dans leur environnement. Parce que créer un préventorium, ou là, enfin, en néonatologie, intégrer une NIDCAP. Donc voilà, j'ai passé vraiment des mois d'écriture assez fabuleux sur ces deux sujets qui m'ont complètement captivée. J'ai trouvé que c'était vraiment des cadeaux. Et d'ailleurs, le cinquième roman qui a été signé en même temps que le quatrième roman chez Robert Laffont, parce qu'ils ont signé sans voir le texte, que je trouvais très chouette, et ils m'ont payé aussi, sans voir le texte, et a découlé justement de mes interviews pour le quatrième en néonatologie. J'ai entendu parler d'autres choses que j'ai trouvées absolument captivantes, et donc voilà, ça a donné naissance au cinquième qui est écrit, et donc maintenant je suis sur le sixième roman.
Ah oui.
Voilà.
Et c'est une volonté maintenant de traiter de la maternité dans tes romans ?
Alors, j'ai toujours traité de la maternité dès le deuxième roman. C'est pas du tout une volonté, parce que sur le cinquième et le sixième, oui, c'est un des thèmes, mais c'est pas volontaire, quoi. C'est pas quelque chose que je m'impose. Mais c'était... En fait, pour être très honnête, je termine un livre d'habitude en avril-mai, un roman... Et c'est au cours de l'été que me vient l'idée du suivant. Et en fait, ce qui arrivait à chaque fois, c'est que j'avais qu'une seule idée. Une seule, pas deux. Donc, c'est pas un choix. C'est juste, c'est la seule idée que j'ai. Et donc, je vais avec. Et donc, voilà, c'est ce qui m'inspire à ce moment-là. C'est un thème ou une injustice que j'ai croisée ou un thème qui me fascine. Parce que je trouve que la passion, c'est tellement important quand on écrit, et je veux pas juste écrire une intrigue, je veux qu'il y ait toujours un sujet important pour moi. Voilà, ça s'est installé dès mon deuxième roman, et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. C'est comme si c'était indissociable, que je pouvais pas juste raconter une histoire, qu'il faut traiter un thème important dedans aussi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Qu'est-ce que ça a changé ? Bon, le premier truc qui me vient, c'est que je dors beaucoup moins. Mais bon, il faudrait quelque chose de plus positif. Non, c'est absolument... Enfin, je trouve que c'est un rêve. Je me souviens, en fait, on dormait pas beaucoup, mais je me souviens d'un truc qui est très vite arrivé, c'est que tous les jours, j'étais joyeuse. C'est comme si c'était une source de joie infinie, ces enfants. Parce qu'ils sont tellement... Enfin, je veux dire, on a la chance de vivre à la campagne, on a une vie un peu pépère, comme ça, où on peut vraiment... être avec eux, je les vois énormément. Et enfin, moi qui avais ce rêve de fonder une famille, je le vis à 100 000%. Et je les trouve très joyeux. Enfin, c'est assez simple maintenant. Enfin, nous, on a juste le souci de toujours les faire dormir, les mettre au lit. Je ne sais pas s'il y a des mamans qui peuvent me donner 2-3 tuyaux. Là, on n'a toujours pas compris le fonctionnement. Ou bien j'ai des enfants qui n'ont pas besoin de dormir, je ne sais pas. Mais sinon, pour le reste, la vie est fluide et très belle. Et je trouve que voilà, on a beaucoup de chance d'avoir des enfants en bonne santé, qui sont plus jamais malades en 2020, 0 fois, touchant du bois.
Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman belge ?
Une maman avec un accent.
Ouais. Ouais.
Une maman qui aime les frites et le chocolat. Une maman avec un tout petit peu de cellulite sur les fesses. Juste ce qu'il faut. Non, je rigole. Mais j'ai l'impression que les mamans belges sont très chaleureuses. Et assez authentiques. Enfin, moi, je connais les mamans belges plutôt campagnardes. Puisque j'habite en pleine campagne. Et donc, j'ai l'impression que c'est des mamans assez authentiques. Fortes dans le soutien. Enfin, on passe notre temps à se promener dans les champs avec des enfants. Voilà, c'est ça d'être une maman belge.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré ?
La forêt.
Ouais.
La forêt, les champs, la nature. Oui, en fait, on va très peu... Ah oui, alors Paradise, On va beaucoup à Paris d'Aïsa. J'ai passé beaucoup de temps à Paris d'Aïsa. Donc, Paris d'Aïsa, c'est un parc animalier super joliment réalisé en Belgique. On a un abonnement. Et donc, je passe un peu ma vie là. Je n'ai absolument aucun intérêt dans les animaux. C'est pas que la cause animale me touche, évidemment. Mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas de voir un phoque. Mais je le fais pour faire plaisir à mes enfants. Je n'en touche pas au niveau des animaux. Enfin, ils se marrent toujours parce que je me trompe dans les noms d'animaux. Voilà. Mais on passe beaucoup de temps là. Beaucoup.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, projet rien que pour moi, je suis une romancière maintenant à plein temps, très très épanouie, mais j'ai l'impression souvent que le projet pour moi, en fait, c'est d'écrire, de pouvoir écrire. Je fais toujours un temps de sport le matin, abdos, yoga, méditation. Et donc ça, en fait, ça me comble complètement. Mmh. Et donc, c'est les projets pour moi à venir, c'est d'écrire ce 6e roman, de vivre la sortie du 4e, et dans un an, la sortie du 5e. Voilà. Et ça me comble. Je suis vraiment, en fait, j'ai réalisé la vie de rêve. Enfin, tous mes rêves sont réalisés dans cette vie-ci.
Et tes projets en famille?
Alors, projets en famille, on n'a pas vraiment de projet parce qu'on ne sait pas quand on pourra partir en vacances avec la situation actuelle. Donc, c'est juste... on a juste des projets de balade. Juste regarder les enfants grandir. Je crois qu'on doit apprendre... un chouette projet, ça serait d'apprendre un peu plus se poser parce qu'on a vraiment enchaîné les projets. Mon mari a sa société. Moi, j'ai les romans. On a vraiment... Puis j'ai changé de maison d'édition il y a quelques mois. On est vraiment fort pris par nos activités, les enfants. Et en fait, on est tout le temps un peu dans l'action. Alors que ce serait pas mal d'apprendre à se poser. Mmh. Ça serait en tout cas moi mon rêve pour notre famille pour le prochain mois.
Merci beaucoup, Alia.
Merci à toi, Chéline.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur votre application podcast et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Alia, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et laissez vos commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.